La première,
podcast. Un jour dans l'histoire, Laurent de Hausset.
Nous sommes en décembre 1931, au centre de Moscou, non loin du Kremlin. On va dynamiter l'église du Christ Sauveur. À sa place, on prévoit de bâtir un grand palais des soviets. Mais il n'en sera rien. Les autorités vont finalement décider que c'est là que va commencer un chantier gigantesque, celui de la construction du métro à Moscou. Donc, parallèlement à cette aventure, on a l'idée de faire écrire aux travailleurs qui vont y participer un ouvrage collectif qui va témoigner de leur expérience.
Hier, à la station Sokolniki, j'ai été le premier passager. J'ai acheté à la caissière le billet numéro 1, série A. Et j'ai fait avec une joie immense le trajet jusqu'à la place de la Révolution.
Un jour dans l'histoire.
Voilà, premier ticket de métro, premier voyageur pour ce métro à Moscou, extrait ici d'un film qui s'intitule « Comment nous avons construit le métro de Moscou », présenté au Festival du film historique à Waterloo. Avec nous, Anne Brunswick. Bonjour Anne Brunswick.
Bonjour Laurent.
Vous êtes la co-auteure avec Xavier Viltard de ce film. Alors, l'histoire démarre en 1931, en juin, lorsque la décision donc, de construire ce métro de Moscou est prise. Il faut dire qu'on a assisté à une augmentation des usagers des transports en commun en fait, à Moscou à cette époque.
La ville explose à ce moment-là, tout simplement parce qu'on est dans une période d'industrialisation à marche forcée. C'est le premier plan quinquennal. En plus, les campagnes vivent une crise terrible à cause de la collectivisation. Et donc, tout le monde essaye de rejoindre la ville et de se faire embaucher sur les grands chantiers. Donc, à cette époque-là, à Moscou, on circule avec des tramways et des trolleybus qui sont... Mais imaginez les trains indiens. Vous voyez, il y a des gens qui sont pratiquement sur le toit. Hein.
Ouais.
Voilà. Donc, oui, il y a une crise des transports en commun qui est phénoménale. Et ce n'est pas une fantaisie qui est passée dans la tête de Staline que de construire un métro. C'était vraiment une nécessité.
Pourquoi ce point stratégique, l'église du Christ Sauveur, comme point de départ du chantier?
C'est pas vraiment le point de départ du chantier, c'est peut-être un des points de départ de notre film.
Oui.
En tout cas, c'est très symbolique de la volonté communiste de moderniser la ville. Et cette église qui a été construite au 19e siècle, qui est un peu comme le Sacré-Cœur à Paris, elle symbolise l'ancien monde. Et à la place, effectivement, les communistes ont envie de construire le palais des soviets surmonté d'une statue de Lénine immense. C'est un projet colossal qui, finalement, à cause de la Seconde Guerre mondiale, ne verra pas le jour. Mais on est en plein centre de Moscou, tout près du Kremlin, et c'est là que vont être construites les premières stations du métro. C'est assez logique.
Et c'est une façon, évidemment, de glorifier cette nation. C'est à la gloire de la nation, ce métro aussi.
Ah, le métro, d'abord, c'est un monument. Aujourd'hui encore, quand on arrive à Moscou, tous les visiteurs étrangers sont ébahis par ce métro. On a l'impression de descendre à l'opéra. Vous voyez, c'est des marches en marbre, c'est des candélabres, c'est des dorures. Enfin, c'est très, très monumental. Et chaque station a un programme décoratif différent qui évoque telle ou telle grande réalisation, tel ou tel aspect glorieux de l'histoire soviétique.
On parle de cathédrale souterraine à la place de la cathédrale qui était sur la terre.
Oui, avec cette idée que dans les cathédrales, à l'époque où les gens ne savaient pas lire, ils pouvaient lire à travers les sculptures et les peintures, finalement, leur catéchisme. Mmh. Et donc là, on a un catéchisme communiste qui s'exprime aussi dans la décoration des statues des stations de métro.
Alors, entre 1932 et 1935, 70 000 travailleurs vont être engagés sur ce projet. Ils viennent d'où, ces travailleurs?
Alors, certains viennent de Moscou, bien sûr. Il y a beaucoup de jeunes. Il y a aussi des gens qui viennent des campagnes, des jeunes et des moins jeunes. Et alors surtout, on a besoin, parce que c'est un métro qui va être creusé en grande profondeur, un peu comme le métro de Londres. Donc on a besoin de gens qui ont le métier, enfin qui sont des mineurs.
Ouais.
Parce qu'il faut savoir vraiment creuser à 50 mètres ou 100 mètres sous terre, boiser des galeries carrément. Et donc là, il n'y a que des mineurs qui peuvent le faire. En Russie, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de mineurs qualifiés. Il y en avait... dans le Donbass, une région dont on parle beaucoup aujourd'hui à cause des événements d'Ukraine, et puis dans l'Oural. Et donc on fait venir aussi ces gens, et ce qui est vrai aussi, c'est un pays pauvre, et où le monde ouvrier est très très limité, donc il y a très peu de compétences. Les gens au début vont faire beaucoup d'erreurs. Les études préparatoires ont été un peu bâclées, et donc ils vont pratiquement perdre la première année. 1932 va être une année perdue pour le chantier, le temps de vraiment de se mettre en place. Et donc, ils vont construire ça très, très vite. 33, 34, inauguration en 35.
Ouais, et on reviendra sur la façon dont ce chantier a été mené. C'est une odyssée prolétarienne aussi, hein, que ce métro, qui va être donc le témoignage de, l'objet d'un témoignage étonnant, donc un témoignage littéraire. D'où vient l'idée ?
Alors, c'est une des choses qui nous a motivés, nous, pour faire ce film. Parce qu'il y avait déjà des films qui avaient été faits sur l'architecture du métro, etc. Mais personne ne s'était intéressé à cet autre chantier qu'est le chantier littéraire. L'idée, je ne sais pas si elle vient de Gorky, mais en tout cas, elle va être parrainée par Gorky, qui est un personnage très important. C'est une sorte de Malraux, on va dire. Mmh. C'est vraiment, il est plus que l'écrivain soviétique le plus célèbre, le fondateur de l'Union des écrivains. Mais il est un super ministre de la culture. Et donc, s'il dit « ce projet vaut le coup », il obtient les moyens de le faire. Or, son idée, c'est qu'on vit une époque extraordinaire en Union soviétique, que la révolution, elle est entrée dans sa phase, on va dire, concrète. Il s'agit plus simplement de détruire le monde ancien, mais il s'agit de construire un monde nouveau. Et le métro est très symbolique de ce monde-là. Et qui construit ce monde nouveau ? Eh bien, ce sont ces gars qui creusent au fond des galeries, etc. Et donc, on va organiser pour eux des ateliers d'écriture. À notre connaissance, il n'y a jamais eu un atelier d'écriture aussi gigantesque qui a jamais été organisé dans le monde. Donc, alors évidemment, ce n'est pas les 70 000 ouvriers du métro qui vont participer. Alors, moi, je dis 70, hein, vous le dites un peu autrement. Mais
on se comprend.
qui ont participé à ce chantier d'écriture. Mais il y en a bien plusieurs centaines, peut-être même un millier, qui ont commencé à tenir leur journal, qui ont assisté à des conférences qui étaient organisées pour eux par des écrivains. Mmh. Et on leur a dit, racontez ce que vous vivez, racontez vos premières impressions, racontez les événements marquants, etc.
Et c'est une façon pour ces ouvriers, pour ces travailleurs, de se mettre eux-mêmes au centre du projet.
Ah, tout à fait. Et l'idée, c'est aussi qu'ils sont en train de construire, pas le premier métro, parce qu'en fait, ils sont plutôt en retard par rapport aux capitales occidentales, mais en tout cas, le plus beau métro du monde. Et de ce point de vue-là, peut-être qu'ils ont raison. C'est effectivement peut-être un des... peut-être le plus beau métro du monde, oui. Donc ils sont très fiers de faire ce qu'ils font. Ouais.
Comment nous avons construit le métro de Moscou ? C'est ce film qui est présenté ici au Festival du film historique à Waterloo.
J'avais lu pas mal de choses sur le travail dans les nouveaux chantiers. Et j'avais envie moi-même de toucher de mes mains les parois des tunnels, de les creuser, de passer dedans, de les sentir. Mais j'étais trop jeune pour me présenter à la visite médicale. Avec ma copine, nous avons triché sur notre âge et on nous a envoyés au puits numéro 10.
Tous les jours, 13h30, 14h30, un jour dans l'histoire.
Extrait encore de ce film « Comment nous avons construit le métro de Moscou ». Anne Brunswick a écrit ce film avec Xavier Viltard est avec nous. Vous connaissez bien Moscou, Anne Brunswick. Vous êtes beaucoup intéressée à la culture russe en général ?
Oui, j'ai beaucoup voyagé en Russie. D'ailleurs, pas seulement à Moscou. Moi, j'ai écrit sur la Sibérie, j'ai écrit sur le Grand Nord, etc. Mais oui, je connais pas mal la Russie, je parle russe. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons collaboré ensemble avec Xavier, qui a aussi fait... Xavier Viltard a réalisé plusieurs films sur la Russie. Je les aimais beaucoup, ces films, et donc on avait envie de travailler ensemble. Donc là, on s'est bien complétés. Et moi, j'ai travaillé sur les archives de la construction du métro. Donc, je suis allée aux archives nationales, là-bas. Et alors, il y a deux livres qui ont été publiés en 1935, donc l'année de l'inauguration du métro, et un s'appelle « Comment nous avons construit le métro » et l'autre s'appelle « Récits des constructeurs ». Et dans ces deux gros livres, qui font 500 pages chacun, écrits en russe, pas traduits, on trouve ce qu'on entend un peu dans le film, c'est-à-dire ces récits de femmes qui descendent pour la première fois au fond, qui font du béton, qui se battent pour qu'on leur donne du travail qualifié, qui veulent être reconnus, ces garçons qui se battent aussi pour monter dans la hiérarchie, et puis aussi ces gens qui dénoncent aussi ce qui ne va pas bien, c'est-à-dire les tirs au flanc, les profiteurs, etc.
On verra que d'ailleurs qu'on les engage à dénoncer effectivement les traîtres à la patrie. Ce sont des archives qui sont connues des Russes et qu'est-ce qu'on en pense de cet épisode en Russie ?
Je pense que les Russes d'aujourd'hui ne connaissent pas l'histoire de la construction du métro, mais ils sont très fiers du métro tel qu'il est. Voilà. En tout cas, ils l'utilisent. Maintenant, dans le film, on a utilisé des archives donc des années 30, mais on a aussi filmé dans le métro d'aujourd'hui et on voit donc la foule des moscovites qui prennent ce métro évidemment tous les jours et qui sont plus très sensibles apparemment au décor. Ils vivent dans un décor totalement, non seulement soviétique, mais même stalinien. Hein. Ouais. Même si les portraits de Staline ont disparu, mais vraiment le décor, l'ambiance est stalinienne. On a l'impression qu'ils passent au travers de ce décor sans le voir. Et en même temps, nous, nous faisons l'hypothèse que malgré tout, cette page de leur histoire, c'est une longue page d'ailleurs, c'est plusieurs tomes, hein, elle pèse encore dans les esprits et je crois qu'elle a profondément modelé la Russie d'aujourd'hui. Oui.
Autre personnage important dans cette aventure, c'est Lazar Kaganovitch. Alors, cheville ouvrière, hein, si j'ose dire aussi, c'est un des penseurs de ce métro.
Alors, Kaganovitch, c'était, on va dire, un des très hauts personnages du parti bolchevique. Et d'ailleurs, il a réussi à sauver sa peau à travers toutes les circonvolutions de l'histoire, ce qui est quand même un record. Et il était responsable à cette époque-là du parti à Moscou. Et donc, c'est entre ses mains qu'a été à lui qu'a été confié l'ensemble du projet de la rénovation, de la modernisation de la ville de Moscou. Et donc, c'est lui qui est, on va dire, le grand architecte du métro de Moscou. D'ailleurs, qui, au moment de son inauguration, va s'appeler le métro Kaganovitch. Aujourd'hui, il s'appelle encore le métro Lénine, mais plus Kaganovitch.
C'est un personnage qui a eu une ascension rapide, hein, qui a participé aux réformes économiques et sociales, à la collectivisation de l'agriculture, ce qui en fait un personnage un peu sinistre quand même. C'est un sinistre personnage. Oui.
Si on regarde ses états de service, ouais. Évidemment, la collectivisation a été un épisode extrêmement sanglant de l'histoire soviétique et il y a plus que participé, ainsi que Khrouchtchev qui est son bras droit sur ce chantier et qui lui aussi, ils ont tous participé évidemment à la collectivisation, ce qui voulait dire très concrètement la confiscation des terres agricoles, du bétail, etc., à laquelle se sont opposés évidemment des milliers de paysans qui ont été réprimés.
Oui. Ouais, collectivisation qui se traduira par une famine aussi, qui va faire des millions de morts, notamment dans les années 32-33. Alors vous le disiez tout à l'heure, techniquement, c'est un chantier délicat, hein, puisqu'on va percer très très profondément dans le sol, dans les entrailles de Moscou. Et on a fait venir aussi des ouvriers de l'Oural, parce que pourquoi ?
C'est une région minière, ouais. Et donc on avait des mineurs qualifiés, et on avait aussi des ingénieurs des mines de l'Oural. Donc un de nos personnages est un ingénieur des mines de l'Oural, et il vient à Moscou un peu, parce que c'est New York pour eux, Moscou, je veux dire, c'est là que ça se passe, hein. Donc dans les années 30, on a envie, ils ont tous envie d'aller à Moscou, il arrive, et voilà, il va faire des découvertes sur ce chantier.
Dans le film, on dit aussi qu'ils ont une psychologie particulière, ces ouvriers de l'Oural, le travail pour eux, c'est une question d'honneur, véritablement.
Oui, c'est ce que dit cet ingénieur. Il faut bien comprendre que... Moi, ce qui m'a étonné quand j'ai vu toutes ces archives des années 35, je m'attendais à ce que ce soit totalement censuré, de la langue de bois, et que, voilà, finalement, qu'on n'apprenne rien. Or, en définitive, dans ces livres-là, il y a quand même des vérités qui transpercent. Et c'est ces éléments, ces fragments de vérité qu'on a voulu garder, notamment dans la voix off du film. Donc, cet ingénieur, il se bat pour que les gens qui creusent, et qui ont la responsabilité vraiment du percement des galeries, soient des professionnels. Et le parti, lui, pousse en avant des jeunes comme Somol, qui sont des gars qui, évidemment, sont très dévoués au parti, mais qui, techniquement, sont nuls. Donc, il y a vraiment une opposition qui, d'ailleurs, va traverser toute l'histoire de l'Union soviétique entre les gens qui vont défendre les compétences professionnelles et ceux qui vont défendre, on va dire, la fidélité politique.
Tout le monde n'y croit pas, à ce projet, au départ. Il fait un peu peur, parce que, justement, la difficulté technique...
Il faut vous mettre à la place, enfin, on est dans dans les années 30, personne n'a jamais vu un métro de sa vie. Même les ingénieurs qui vont construire ce métro n'ont jamais vu de leur vie un métro. Donc pour eux, c'est déjà une abstraction complète. Et c'est un pays qui n'est pas encore du tout industrialisé, qui n'a pas d'infrastructure. Donc ils ont l'impression là, qu'on est en train de construire, je ne sais pas quoi, enfin, un ovni, un Spoutnik, enfin, un truc vraiment invraisemblable. Donc ils ne comprennent tout simplement pas les enjeux du projet au début. Et c'est très progressivement que ces gens qui viennent de la campagne vont comprendre à quel point l'existence de ce métro va révolutionner Moscou.
On a fait appel, je ne sais plus si c'est dans le film qu'on le dit, on a fait quand même appel à des spécialistes étrangers, puisqu'il y a déjà des métros à Londres, certainement à Paris, je pense.
Alors, un de nos personnages, c'est un ouvrier communiste qui vient de Berlin et qui a travaillé sur le chantier du métro de Berlin. Et cet homme qui est donc un communiste tout à fait dévoué, même probablement très dogmatique, en même temps, c'est un ouvrier allemand. Et donc, quand il voit les ouvriers russes travailler, les bras lui en tombent. Ouais. Parce que c'est vrai que les ouvriers russes, ils ne sont pas très professionnels. Lui, il se plaint du fait que souvent, il laisse le chantier en plan, que la logistique ne suit pas, qu'on commence à creuser et puis qu'il n'y a rien derrière qui suit. Donc, lui, il est très choqué de voir l'amateurisme. Et c'est vrai que en comparaison de l'Allemagne, la Russie des années 30, ils sont encore tout à fait balbutiant. Quoi.
Beaucoup d'ouvriers étrangers finiront au goulag en 1937.
Oui, alors l'histoire, donc le métro est inauguré là, le 15 mai 1935. on va dire que c'est pas que c'était un État démocratique, loin de là, c'était un État policier. Ouais. Mais il y a une phase de terreur policière qui va se déclencher à partir d'avril 37 à novembre 38, et beaucoup de ces communistes étrangers vont tomber victimes de cette phase de terreur. Beaucoup d'autres aussi. Hein.
Ouais, on reviendra d'ailleurs sur la fin de ce chantier qui ne se passera pas exactement comme prévu. En effet, un jour tu creuses, trois jours tu pompes pour éviter les inondations. Donc c'est un travail pénible, on l'a bien compris. On peut rester jusqu'à 6 heures dans le fond. Et puis surtout, il y a aussi l'ambiance entre les ouvriers. Il y a des conflits de génération notamment.
Oui, c'est ça qui m'a surpris aussi en lisant ces archives. C'est que moi, j'imaginais que tout allait se présenter de façon parfaitement idéale, comme ça doit se présenter dans la propagande soviétique. Or, les livres laissent quand même comprendre que les femmes doivent se battre pour être reconnues, que ça va pas, c'est pas si simple que ça, qu'il y a des conflits entre les jeunes et les vieux, qu'il y a des conflits peut-être entre les moscovites et les campagnards, etc. Enfin bref, c'est la vie, quoi. Il y a des contradictions dans le peuple, c'est tout à fait normal. Voilà.
Les anciens qui accusent les jeunes de faire de l'excès de zèle et donc de provoquer des accidents.
Oui, parce qu'on n'est pas encore tout à fait à l'époque de Stakhanov, ça va venir un ou deux ans plus tard, mais déjà le Parti communiste essaye de fabriquer une classe ouvrière, on va dire aujourd'hui, on dirait productive et compétitive, ce qui n'est absolument pas le cas à l'époque. Et donc les pousse à augmenter les cadences, etc. Alors certains le font pour se faire bien voir du parti, mais on ne peut pas augmenter les cadences indéfiniment, surtout quand on n'a pas les compétences techniques. Donc évidemment, ils provoquent beaucoup de catastrophes, et les vieux mineurs qui, eux, gèrent leur plan de carrière, ils se disent qu'on va être mineur pendant 20 ans ou 25 ans, ils ne se défoncent pas comme ça au travail, ils prennent le travail de manière... tout à fait différent. Mais les jeunes le prennent pratiquement comme un défi sportif. Ils se lancent des défis, ils font des compétitions, etc. Donc, c'est à qui il creusera le plus, etc. Bon, donc, il y a une ambiance un peu de folie. Bon, on est encore, malgré tout, dans les années 30, la révolution n'est pas complètement morte. C'est-à-dire il y a encore une forme d'énergie et de souffle révolutionnaire qui va probablement disparaître assez rapidement, notamment dans la Grande Terreur.
Comment nous avons construit le métro de Moscou? C'est Anne Brunswick qui est avec nous ici au Festival du film historique à Waterloo.
Une nuit, on a frôlé la catastrophe. L'eau jaillissait de partout. Les châssis tremblaient comme si, de dessous la terre, une bête fonçait sur nous. J'ai eu juste le temps d'attraper par la main le Komsomol Fedorov. On a rampé dans le tunnel inférieur, et là c'était vraiment la mer.
Laurent de Hausset, un jour dans l'histoire.
Catastrophe évitée de peu dans la construction, au cours de la construction du métro de Moscou. Anne Brunswick, on l'a vu, le chantier du métro va prendre du retard et Lazar Kaganovitch va mettre la pression. On a le sentiment qu'il sort un petit peu de la réalité, ce Kaganovitch, que pour lui, c'est aussi une épopée qui s'écrit effectivement et qui rentre dans une espèce d'univers imaginaire presque.
Oui, oui. Il y a une forme d'esprit épique dans ces années-là. Je pense que Kaganovitch n'est pas le seul, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils ont le sentiment. D'abord, ils sont en train de construire la première société socialiste de l'histoire. La seule tentative de ce genre, c'était la Commune de Paris. Ça avait duré 3 mois. Donc eux, là, ils sont dans la 17e année de la Révolution. Ils ont l'impression que voilà, ils sont en train de construire quelque chose qui n'a aucun équivalent dans l'histoire, etc. Donc ils sont très fiers de ce qu'ils font, et c'est vrai qu'il y a... D'ailleurs, ça justifie toutes les purges et toutes les répressions, puisqu'on est en train de faire quelque chose d'inouï et qu'on a le monde entier contre nous. Donc il y a cet esprit-là. Après, il y a l'histoire du livre, parce qu'ils ont décidé de sortir le livre en même temps qu'on va inaugurer donc, la première ligne de métro. Il faudra que ces livres soient prêts. Et Kaganovitch a dans l'idée, il voudrait un grand roman épique. Et bon, ce qui se passe, c'est que ces ouvriers, d'abord, ils ont des journées de travail qui sont très dures. Ils ne sont pas des professionnels de l'écriture, c'est le moins qu'on puisse dire. Certains même viennent juste d'apprendre à lire et à écrire. Le résultat n'est pas exactement au rendez-vous. Ce que les ouvriers écrivent, et ils écrivent ça très très bien, ils racontent des catastrophes. Parce qu'en fait, ils ont échappé, là on parle d'une inondation, ils ont échappé à beaucoup de catastrophes. Et c'est vrai, quand on demande à un ouvrier spontanément, quel est ton souvenir le plus marquant du chantier, il va vous raconter le jour où la galerie s'est effondrée sur sa tête. Bon, alors quand les dirigeants du parti voient tous ces textes arriver, ou les responsables du comité de la rédaction, qui sont des responsables de la jeunesse communiste, voient tous ces textes arriver, ils disent, c'est bien gentil tout ça, mais c'est pas avec ça qu'on va faire le bouquin. Donc ils vont changer de méthode. Et finalement, les livres qui vont paraître en mai 35 ne sont pas aussi spontanés que ce qu'on avait imaginé. Voilà.
Il y aura 2 tomes qui paraîtront, on en reparlera tout à l'heure. Vous l'avez déjà un petit peu évoqué, c'est le rôle des femmes. On est dans une société donc socialiste, ça veut dire que c'est une société mixte quand même.
Oui, alors c'est une société socialiste qui est en train de se fabriquer. Ouais. Hein. Et sur fond de quoi ? Ben, on vient d'une société rurale où il n'y avait évidemment pas d'égalité des sexes. Et le Parti communiste, il a libéralisé l'avortement, il a libéralisé le divorce. Enfin, il a un programme en matière de mœurs, on dirait aujourd'hui, sociétal même, on dirait, et qui est très très loin de ce que les paysans connaissaient, vivaient, et puis ce qui était perpétué par l'Église orthodoxe, et ainsi de suite. Donc il y a une rupture, on va dire, sociétale qui est totale. Et ces ouvriers, donc ces hommes, ces jeunes hommes, on leur dit, bah, maintenant vous allez travailler avec des femmes. Et non seulement elles vont porter les seaux, etc., mais elles vont faire du béton, mais elles vont aussi apprendre à étayer, etc. Vous devez les traiter comme des égales, etc. Pour eux, ça, c'est, on leur parle martien. Hein.
Ouais. Et certaines seront chefs de brigade parmi ces femmes.
Hein. Oui, il y a des femmes qui vont faire des belles carrières. Et c'est vrai qu'en Union soviétique, on va avoir énormément de femmes ingénieures. Dès les années 30, et encore aujourd'hui, on a beaucoup de femmes ingénieures, y compris des femmes qui sont ingénieures, travaux publics. Enfin, dans des spécialités en Europe occidentale, on ne voit pas de femmes qui dirigent des chantiers d'autoroute, par exemple. En Russie, c'est tout à fait banal.
Discipline, on l'a dit, sévère. Par exemple, il y a des amendes aussi. Bon, là, c'est peut-être un peu plus anecdotique, mais on donne des amendes en cas d'utilisation de gros mots, c'est ça, hein ?
Il y a un projet qui est derrière tout ça, qui est l'idée de fabriquer un homme nouveau. Hein. C'est-à-dire que les dirigeants communistes, ils pensent que le peuple russe, en gros, est attardé. Quoi. Vous avez des moujiks qui ont la barbe qui leur traîne voilà, jusqu'au milieu du ventre, qui ont... ils travaillent l'été, parce que l'été, les journées sont longues en Russie, mais l'hiver, on est sous la neige, donc ils font rien, ils boivent de la vodka, etc. Donc, ça, c'est le peuple réel. Et eux, ils rêvent d'un peuple qui serait un nouveau peuple, qui, lui, serait un peuple d'ouvriers, bien formés, productifs, disciplinés, qui ne boivent pas, qui ne disent pas de gros mots, qui respectent les femmes, et ainsi de suite. Et donc, le chantier du métro, quelque part, c'est une sorte d'expérimentation sociale aussi pour fabriquer ces hommes nouveaux. Et je pense que le régime soviétique, d'une certaine manière, a produit ces hommes-là qu'on appelle l'homo soviéticus, voilà. Qui font du sport, etc.
On va entendre ici, dans un autre extrait du film, comment une femme soviétique décrit une femme, oui, soviéticus, décrit l'enthousiasme dans ce chantier.
Quand on s'est mis à creuser la jonction entre les puits 14 et 15, tous les gars étaient si contaminés par l'enthousiasme qu'ils restaient à pied d'œuvre 25 à 30 heures de suite. Moi non plus, je n'arrivais plus à quitter le puits. Je restais là à écouter des voix familières, des chuchotements, un bout de chanson ukrainienne, et je me sentais bien, comme si je vivais dans un conte.
Un jour dans l'histoire.
Voilà, ce qui est fou, effectivement, Anne Brunswick, c'est l'enthousiasme de tous ces travailleurs dans ce chantier de la construction du métro de Moscou. Fin 1934, le vent commence à tourner. Pourquoi ?
Alors, il y a un événement qui est marquant, qui est traumatisant. C'est l'assassinat de Kirov. Kirov, c'est pas n'importe qui, c'est vraiment un des plus hauts personnages du Parti communiste, dirigeant du Parti communiste de Leningrad, donc aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Et cet assassinat, donc début décembre 1934, est-ce que réellement il est le signe d'un complot contre la direction, ouais, ou bien est-ce qu'il va être utilisé pour donner le signe d'une vague de répression? Toujours est-il que c'est, le début d'un virage extrêmement répressif, extrêmement meurtrier du régime.
Ouais, c'est une purge de tous les collaborateurs, de tous les proches de Staline, pratiquement.
Alors, les premiers qui vont tomber, c'est ce qu'on appelle la vieille garde, hein, c'est-à-dire ceux qui ont fait la révolution aux côtés de Lénine, etc., les vieux bolcheviques, on disait aussi. Mais en réalité, les purges de 37-38, elles vont toucher énormément de gens. 750 000 personnes vont y laisser la vie, 1,5 million vont être expédiés au goulag, et ça touche, en fait, alors, toutes sortes de gens. D'une part, les gens qu'on considère comme un peu irrécupérables par le système, parce qu'ils sont alcooliques, parce qu'ils sont sans domicile fixe, parce qu'ils sont proxénètes ou prostituées, etc., ou joueurs de casino, je ne sais pas trop quoi. Enfin, tous ces gens qu'on considère qu'ils sont parasites et qu'on n'arrivera jamais à les discipliner et en faire des bons ouvriers soviétiques. Il y a ceux-là. Et puis, il y a des gens qui ont des noms étrangers, qui ont un nom d'origine polonaise, un nom d'origine ukrainienne. Ces gens-là, on les soupçonne, en cas de guerre, si jamais les Allemands arrivent, d'embrasser les Allemands avec un petit peu trop d'empressement. Mmh. Et donc, Staline va faire une politique pratiquement préventive. Il va considérer a priori que ces gens-là sont susceptibles de trahir. Donc, ils sont déjà des traîtres. Donc, on les tue préventivement. Et ça va toucher 350 000 personnes. C'est énorme.
Et Gorki a perdu son influence. En plus, il a des problèmes de santé. Son fils est mort.
Gorki meurt en juin 1936. Et c'est probablement aussi un tournant dans l'histoire soviétique. Toutes ces expérimentations, par exemple atelier d'écriture, etc., tout ça va largement disparaître. Et puis on rentre à ce moment-là dans une période beaucoup plus répressive. bon, ça va changer aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que Staline va avoir besoin de l'enthousiasme du peuple quand même pour défendre la mère patrie. Et donc, à partir de 1941, on va tenir un autre langage, hein, même si le pays reste, le gouvernement reste très répressif, mais il a besoin quand même d'une adhésion populaire pour faire la guerre, et donc on ne pourra plus permettre ce qu'on a fait en 37-38. Hein.
Le 15 mai 1935, le métro de Moscou est inauguré en grande pompe, hein, c'est une fête nationale pratiquement.
Ah oui, oui, c'est une fête, il y a de la joie, il y a une énorme manifestation dans les rues de Moscou pour célébrer l'inauguration du métro, c'est un grand événement, il est très médiatisé, et d'ailleurs c'est cette médiatisation qui nous a, nous, aidés dans le film, parce que en fait, les archives que nous avons utilisées, ce sont des archives qui sont des actualités soviétiques. À partir de l'automne 1934, on voit bien que le métro est en train de se terminer. Et donc, régulièrement, on envoie des opérateurs d'actualité filmés dans les sous-sols du métro. Et donc, nous, on a une matière filmée formidable qui nous a évidemment beaucoup servi dans le montage du film.
Alors, on l'a dit, le livre va sortir en deux tomes. Hein. Comment est-il reçu au sein de l'opinion publique, comme on dirait aujourd'hui ?
En vérité, je n'en sais rien. Là, je dois vous dire que je n'ai aucun écho sur l'accueil de ces deux livres. Je pense que c'était une commande officielle. Il fallait vraiment orchestrer cette inauguration avec un appareil médiatique très important. Ouais. Hein, mais je ne sais pas du tout comment ça a été accueilli. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de films sur le métro. Il va y avoir même un film de fiction qui va être tourné après la guerre, qui va raconter l'épopée des Komsomol construisant le métro de Moscou. Donc, en tout cas, c'est un sujet très populaire.
Dans le film, il y a des témoins quand même qui disent bon, au fond, il va y avoir un désintérêt très, très rapidement de part et d'autre, de par ceux qui ont écrit le bouquin et de ceux qui seraient censés le lire, quoi.
C'est un des rédacteurs du comité de rédaction qui se rend compte qu'effectivement le vent a tourné, que Gorki a perdu beaucoup de son influence et que ces livres-là faisaient partie d'une grande collection qui s'appelait « L'histoire des fabriques et des usines » dont Gorki était le maître d'œuvre. Et ce projet, on va dire, il décline à partir de 1935, avant même la mort de Gorki.
Comment nous avons construit le métro de Moscou, donc c'est ce film passionnant, on l'a compris, hein, de Anne Brunswick et Xavier Viltard qui est présenté ici au Festival du film historique de Waterloo. Merci beaucoup Anne Brunswick.
Merci Laurent.